La carte Visa Orange Money, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Appel sur l'actualité, deuxième partie, bienvenue si vous nous rejoignez dans les 20 prochaines minutes. Comme chaque jour, notre débat sur les fake news, les fausses nouvelles qui pullulent sur les réseaux sociaux dans tous les pays, tous les continents. Comment lutter contre leur propagation? Faut-il légiférer, donner plus de contraintes aux plateformes? Comment vous informez-vous en ligne? On lance le débat ce matin. Premier intervenant, Lionel à Kinshasa, bonjour.
Bonjour François Mazet, bonjour RFI.
Alors Lionel, dans un pays qui attend un gouvernement depuis des semaines et dans le contexte politique que l'on connaît, on imagine que les rumeurs, les mensonges, les fausses informations, vous y êtes confronté au quotidien en ce moment.
Absolument, rempli des doutes, on ne sait plus quelle information se confier, à quelle information donner toute notre attention avec ces phénomènes fake news, comme vous l'avez bien rappelé à l'introduction. Donc ça nous dérange, il y a eu circulation de n'importe quoi, excusez-moi pour l'expression, au sujet du gouvernement, le prochain gouvernement, la formation, le partage des postes. On était emballés, il y a eu des informations qui étaient peut-être qu'on annonce pour demain, pour bientôt, et le gouvernement n'arrive pas. Et même on a pris certaines informations dans les coulisses, et pendant que ce n'était pas vrai, qui entre les deux camps, il s'est déchiré, ils avaient énormément de problèmes pour se mettre d'accord sur certains points. Et finalement, pour publier officiellement ce prochain gouvernement.
Donc, alors, quelle forme ça prend, Lionel? Est-ce que c'est des partages de contenu frauduleux sur Facebook, des messages qui circulent sur WhatsApp?
Exactement, sur WhatsApp, beaucoup plus. Moi, je suis très accro à WhatsApp, je me connecte souvent, donc c'est aussi de là que nous recevons des informations, des fausses informations. Et même sur Facebook, ça circule. Mais je voulais quand même répondre à une préoccupation telle que vous l'avez annoncée en préparant l'émission, comment combattre ça? Mais avant peut-être de répondre à cette question, je voulais rappeler qu'il n'y a pas seulement les gouvernements là où on était emballés dans des fausses informations, même au sujet du virus Ebola.
Oui, Ebola,
on nous a dit n'importe quoi. Il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux qui annonçait déjà et qui confirmait même la présence du virus ici à Kinshasa. Imagine qu'on était rompus, partis de pair, on s'est posé des questions finalement. On avait ce problème de confiance entre nous, on ne pouvait plus se saluer alors que ce n'était pas vrai.
Oui, on voit bien, hein, Lionel, dans l'Est du pays, les conséquences qu'ont ces fausses informations sur la population qui, elle, est confrontée non seulement à l'insécurité, mais en plus à Ebola. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre ces fausses nouvelles? Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant qu'utilisateur de réseaux sociaux?
Oui, parfaite question. Mais d'abord, j'aimerais rappeler que c'est très difficile de combattre à fond ces phénomènes parce que d'abord, les rédacteurs, ceux qui sont des responsables et qui publient ces informations, ne sont jamais identifiés. Et le fait déjà d'être connecté à ça, moi, je l'estime comme ça qu'on est du tout exposé. Mais moi, je dirais même pour combattre, pour lutter contre les propagations. Moi, je pense qu'il faut aussi y remettre en valeur le média traditionnel. Parce que moi, quand je tombe sur ces fausses informations, je me confie toujours aux médias pour confirmer cela. Donc, si on pourra renforcer les médias traditionnels, cela nous permettrait forcément de lutter contre ça. Mais il y a une autre dernière solution que moi, j'aimerais suggérer, c'est aussi qu'il y ait un suivi, un contrôle des autorités qui essaient simplement de poursuivre ces gens-là. Genre de contrôle, sanctions en même temps, ça va facilement nous aider, nous permettre de combattre ces fake news.
Merci Lionel d'avoir été en ligne de Kinshasa. On a beaucoup de réactions à ce sujet ce matin, notamment à Libreville. Bonjour Francis.
Oui, bonjour François Mazet.
Vous-même Francis, vous avez déjà été victime de rumeurs propagées sur les réseaux sociaux?
Oui, bien sûr, j'ai été victime des rumeurs propagées sur ma personne, et qui fait aujourd'hui que je prête plus attention sur les fake news, parce que lorsque vous avez été victime, vous savez plus ou moins ce que c'est dire des choses mensongères sur votre personne.
Notre auditeur précédent appelait à des sanctions beaucoup plus fortes pour les plateformes, notamment qui permettent la circulation de ces fausses nouvelles. Est-ce que c'est votre avis? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous?
Ben, je parlerai particulièrement pour le cas de mon pays, le Gabon. Je pense que cela est pour moi une très bonne chose. Et je crois qu'au niveau du Gabon, les autorités devraient légiférer sur la question. Parce qu'il y a trop de fake news chez nous. Vous savez, au Gabon, il y a des gens qui vous disent « Monsieur le président de la République, Ali Bongo est décédé ».
Oui, c'est vrai qu'avec sa santé fragilisée et le contexte politique, ça alimente l'usine à fausses nouvelles.
Justement, il y a tellement de fausses nouvelles qu'il faudrait à un moment donné légiférer parce que nous, on voit le président de la République le 17 août, alors que sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook, on nous annonce qu'il est décédé. Il y a des gens qui se lèvent, qui parlent visiblement et qui ne sont pas au Gabon, qui sont chez vous en France. Mmh. Et il faudrait qu'à un moment donné, soit les autorités gabonaises légifèrent et travaillent en partenariat avec les autorités françaises qui aujourd'hui, je crois que ça fait débat, certainement va légiférer. Et je pense qu'à partir de là, les fake news, ça va plus ou moins diminuer parce que aujourd'hui, le citoyen lambda que je suis se nourrit de ça. Des fake news.
Ça permettrait au moins d'attirer l'attention de la population sur toutes ces fausses nouvelles qui passent en ligne. On va à Conakry maintenant avec Faudé. Bonjour.
Bonjour François.
Vous êtes vous-même journaliste, Faudé, et en Guinée, les fausses nouvelles se propagent comme un feu sur une plaine sèche, on peut dire.
Bien entendu, comme une traînée de poussière. Ici, on croit à tout et n'importe quoi. Vous savez, dans un pays, lorsque les gens ne sont pas instruits, lorsqu'on a un taux d'analphabétisme très élevé, on est forcément exposé aux fake news. Mm-hmm.
Alors, comment ça se passe concrètement? Il y a des gens qui voient des fausses nouvelles passer sur Internet via les réseaux sociaux et après qui les propagent dans leur entourage, dans les villages, auprès de personnes qui, eux, ne savent pas lire et donc sont d'autant plus victimes de ce phénomène.
Bien entendu, quand je prends le cas d'Internet, l'Internet a l'avantage d'être un outil d'information très fiable, mais aussi, il faut le dire, Internet est à la portée de tout le monde, même des gens les moins avertis. Lorsqu'ils voient une information sur Facebook, WhatsApp ou Instagram, et tout de suite prennent cela comme argent comptant. Et le premier à recueillir l'information la distribue sans, ma foi, essayer de vérifier sa source. Il la distribue tout de suite. Et du coup, l'information, quel que soit son caractère, se propage dans la société. Et bonjour les dégâts.
Qui doit agir selon vous? Est-ce que c'est les plateformes? Est-ce que c'est aux gouvernements nationaux?
Je crois qu'il doit y avoir une synergie d'action entre les forces publiques, les décideurs publics, je vais dire, et les responsables des médias. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure des médias traditionnels. Mais il faut dire que les médias traditionnels eux-mêmes ont envahi les réseaux sociaux. Et donc, tout le monde vient puiser les informations dans les réseaux sociaux. Je crois que c'est milieu-là qu'il faut encadrer, qu'il faut organiser, hein, en dispatchant, je le disais tantôt, hors antenne, en dispatchant les outils de prévention. Il faut que, par exemple, France 24 a une émission très intéressante où on essaie de munir les téléspectateurs d'outils capables de résister contre la fake news.
Mmh. Vous parlez des observateurs, Faudé, merci. Et beaucoup de commentaires, hein, d'ailleurs, que ce soit par WhatsApp ou sur Facebook, soulignent la crédibilité de certains grands médias vers lesquels on se tourne. Et c'est gentil, merci de citer souvent RFI comme une référence. Fabrice Allomé, bonjour.
Bonjour François et bonjour à tous les auditeurs.
Alors vous, c'est sur WhatsApp, dans vos groupes de conversation, que les infox, les infos intoxicantes, comme on dit en bon français, se propagent à vitesse grand V.
Oui, bien évidemment, la situation togolaise n'est pas du tout différente de celle qu'on vient d'entendre dans d'autres pays. Et il faut dire qu'au Togo, effectivement, surtout ces trois dernières années, avec la situation politique un peu mouvementée, on en a eu beaucoup, les fake news, les diffamations, les montages d'images et tout cela, tout était déversé. Et naïvement, beaucoup y croyaient. Et je vais peut-être vous apprendre qu'au Togo, il y a d'ailleurs un phénomène en langue locale qu'on appelle « mime tcha-tcha-tcha ». Ce qui veut tout simplement dire, lorsque vous avez l'information, partagez seulement sans vous poser des questions. Mm-hmm. Ce qui a fait que on a beaucoup diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le plan politique ou sur d'autres aspects. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un peu de recul, certains ont compris qu'il y avait trop de fausses informations sur les fake news. Et je vous rappelle que même parfois, des journaux tombent dans le panneau. Les journaux classiques qui sont censés quand même donner l'information, la vraie qui est recoupée, tombe dans le panneau. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et surtout quand on prend les sites internet qui foisonnent aujourd'hui beaucoup au niveau du Togo, les blogs et tout cela. Mais ce qui est sûr au niveau du Togo, il y a quand même, sur le plan législatif, quelque chose qui est un peu fait déjà avec le code pénal qui a été modifié en 2015, où quand même il y a une disposition, surtout en ce qui concerne la diffamation, qui dit que tout moyen de diffusion, c'est-à-dire que ça ne s'arrête plus aux médias classiques, on parle
qui prévoit une peine d'emprisonnement, notamment hein, de 6 mois à 2 ans de prison, une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Et les syndicats de journalistes sont vent debout contre ce texte qu'ils qualifient de liberticide, parce qu'à l'amende qui existait déjà, ils rajoutent une peine d'emprisonnement. Mais vous, Fabrice, est-ce que vous utilisez des sites pour vérifier les informations, notamment Africa Check qu'utilise Facebook sur plusieurs langues et bientôt sur des langues nationales africaines?
Oui, bien évidemment, c'est une nouveauté. Et donc, on essaie de vérifier. C'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, on se réfère beaucoup plus aux médias qui ont une certaine renommée. Je vais citer RFI et bien d'autres médias également qui sont quand même dignes de confiance. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai que les techniciens également donnent quelques éléments, comment authentifier un vrai compte d'un faux et comment également essayer de mettre la différence entre une vraie information et une fausse sur ces réseaux sociaux, puisque quoi qu'on en dise, parfois certaines informations sont vraies sur ces réseaux sociaux-là, mm-hmm. mais sauf que ça va à la vitesse de la lumière, tout le monde veut être le premier à balancer l'information, on partage sans se poser la question, mais aujourd'hui, beaucoup de Togolais savent qu'en partageant seulement une fausse information, ils risquent d'être sous le coup de la loi, et j'avoue que même si ça n'a pas encore eu assez d'impact quand même, l'information commence par circuler et au niveau des tests, quand même, quelque chose est fait pour pouvoir limiter toute cette vague.
Voilà, l'intoxication qui va toujours, bien sûr, beaucoup plus vite que l'investigation, donc il faut être très prudent avec ça. Mamadou est en ligne de Ziguinchor, bonjour.
Bonjour François Mazet.
Alors le Wolof va faire partie du programme de Facebook pour lutter contre les fausses nouvelles en Afrique, mais du coup vous en Casamance, comment est-ce que vous allez faire, parce que il n'y aura pas de Diola en tout cas pour l'instant, comment vous vous débrouillez pour vérifier vos informations?
Moi je pense que le premier filtre c'est déjà le bon sens. Le bon sens, je vais vous raconter une histoire. Récemment, il y a un Sénégalais, un activiste qui a été arrêté, qui était à la maison d'arrêt de correction de Dakar. Il y a eu une lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux qui lui aurait été imputée. Moi, quand j'ai lu la lettre, je me suis posé deux questions. Comment est-ce qu'il a pu disposer d'un instrument de rédaction numérique, un ordinateur ou bien un smartphone, pour écrire cette lettre? Secondo, par quel canal de communication a-t-il pu véhiculer cette information-là? À partir de là, je me suis dit, cette lettre ne me semble pas crédible. Mmh. Heureusement, le lendemain, le directeur de la maison d'arrêt et de correction auquel la lettre a été adressée a fait une sortie dans la presse. Il a dit qu'il a rencontré le supposé convoyeur de la lettre qui lui a dit qu'il n'a jamais envoyé une lettre. C'est-à-dire qu'il y a des gens à l'extérieur qui ont concocté une lettre et qui ont fait circuler la lettre à travers les réseaux sociaux.
Voilà, donc, c'est un cas d'exemple. Hein. Et là, vous prenez l'exemple pour les non-sénégalais de Guy Marius Sagna, cet activiste de la société civile au langage très énergique et qui a passé quelques jours en prison avant d'être libéré, je crois que c'était vendredi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Mamadou, concrètement, selon vous, pour éviter ce genre de choses? Est-ce que c'est aux États de travailler ou est-ce que c'est à Facebook et aux autres plateformes d'être beaucoup plus restrictifs?
Moi, je pense que les responsabilités sont partagées. Il faut que Facebook, aujourd'hui, prenne ses responsabilités et sache que l'outil qu'il a développé, qu'il a proposé, est devenu un outil très intéressant, mais également un outil très dangereux. Il faut qu'il corse un peu les mesures sécuritaires pour que des personnes ne s'amusent pas à diffuser de fausses informations. Imaginez que quelqu'un diffuse une information selon laquelle un président serait décédé. Vous imaginez comment ses partisans vont réagir, ou comment ses adversaires vont réagir, ça va créer un problème dans un pays, quel que soit le pays. Au niveau étatique également, il faut que les États se mettent à jour, parce qu'il y a des États qui sont en retard. Il faut que les États se mettent à jour, qu'ils créent des mécanismes de contrôle sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça va très vite, parfois c'est difficile à contrôler, mais également au niveau individuel, que chacun se dise que la paix, la stabilité d'un pays est importante pour tout le monde. Moi, en tant que Sénégalais, je ne peux pas m'amuser à diffuser une information qui serait préjudiciable à la sécurité du pays. Donc là aussi, c'est extrêmement important, parce que souvent, c'est des combats politiques que les gens mènent. Je ne suis pas d'accord avec le pouvoir, j'ai vécu une fausse information. Récemment, il y a à peine 2 mois comme ça, quelqu'un a diffusé une information selon laquelle que l'ancien Premier ministre du Sénégal, Mohamed Abdoulaye Diagne, serait décédé, ce qui s'est avéré faux, ce qui n'était pas vrai. Ils ont même procédé à un montage d'images qu'ils ont diffusé dans les réseaux sociaux, mais c'était extraordinaire. Beaucoup de ses partisans étaient très fâchés. Malheureusement, certains Sénégalais ont été atteints, ils étaient tristes. Vous voyez le drame que ça peut causer dans un pays. Donc je pense que au niveau individuel, la responsabilité également doit être prise et que chacun assume ses responsabilités.
Merci Mamadou d'avoir été en ligne de Ziguinchor avec 2 cas bien précis. On a compris comment fonctionnait cette diffusion sur les réseaux sociaux, diffusion de fausses nouvelles. Bonjour Abderrahmane.
Bonjour François.
Vous êtes à Bamako et au Mali aussi, il y a beaucoup de fausses nouvelles entre les questions de politique, l'état de santé du chef de l'État. Pour vous, l'important c'est de bien choisir ses sources.
Tout à fait. Avant de commencer, je remercie tout d'abord RFI et l'agence France Presse, parce que en fait c'est notre meilleure source d'information, même si la situation se passe au Mali. Maintenant, pour dire par rapport aux fake news, je pense que les fake news ont un bel avenir en Afrique parce que nos États, nos autorités ne communiquent pas. Et donc les gens sont assoiffés d'informations. Et comme on se retrouve dans des grèves au Mali, par exemple, c'est des lieux de regroupement des jeunes après le travail. Et c'est là où on se véhicule les informations, on se passe les informations. Chacun veut jouer au plus intéressé, au mieux, au parfum des choses. Donc c'est un meilleur canal pour faire distiller des informations fausses.
Pour vous, le meilleur canal de diffusion des fausses informations, eh bien, c'est l'opacité de l'État, par exemple, qui fait le lit de tout ça.
Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez nos journaux au Mali ou nos journalistes n'ont pas l'information, ils n'ont pas un accès facile aux autorités, mais pourtant, dès que c'est RFI ou c'est une autre agence extérieure, elles sont tout de suite prêtes à donner les informations. Et ce qui fait qu'effectivement, par manque d'informations, les journalistes ou tous nos canaux de communication, ils essayent de prendre les bits de ce qu'ils sentent et après, ils commencent à se donner leur propre opinion de la situation. Donc je pense que c'est le premier moyen pour lutter contre les fausses nouvelles, c'est de mieux communiquer et d'être accessible.
C'est un manque de moyens aussi des journaux africains, des groupes de médias africains, selon vous, qui ne leur permettent pas forcément d'être en lutte avec les diffuseurs de fausses informations sur les réseaux?
Pas forcément, parce que pour moi, c'est le manque d'accessibilité. C'est-à-dire que pour moi, si effectivement nos journalistes ont accès aux autorités, ont des moyens pour avoir l'information et les gens sont accessibles pour essayer d'expliquer quand il y a des phénomènes, je pense qu'on n'aura pas de problème, parce que la diffusion, elle se fait d'elle-même. Comme je l'ai dit avant Facebook, avant WhatsApp et tout ça, au Mali, nous avons nos grains et c'est les meilleures façons de passer le message. D'un grain à un autre, l'information de 19h à 21h, l'information se propage dans tout le Mali.
Et on entend tout et n'importe quoi. Merci Abderrahmane qui était en ligne de Bamako. Je remercie tous les auditeurs qui ont participé ce matin à l'émission et à ceux qu'on n'a pas pu entendre puisque Mama également était à Bamako. Merci en tout cas d'avoir envoyé votre message, de même que Willy à Yaoundé, à ceux qui se sont signalés sur WhatsApp par exemple, Cheikh à Saint-Louis qui trouve que les réseaux sociaux sont trop entachés, dit-il, de négativité, ou encore Morphal à Dakar qui lui est estime que tout le monde s'autoproclame journaliste de nos jours et que du coup on n'a pas les bons critères pour s'assurer qu'une information est fiable. Boubacar également au Maroc, lui, veut rendre